Bonjour. Garantir l'indépendance des grands médias, garantir l'indépendance des journalistes, indépendance essentiellement vis-à-vis de leurs actionnaires, c'est l'objectif affiché de nombre de gouvernements depuis 30 ans, pour l'essentiel d'ailleurs des gouvernements de gauche. Alors, après la tumultueuse prise de contrôle de Canal+ par Bolloré, l'objectif a ressurgi par le biais d'une proposition de loi, laquelle ne vise plus à limiter la concentration des médias, mais notamment à les doter de garde-fous déontologiques. Alors, est-ce que ce sera efficace? Est-ce que ce sera suffisant? Ce sera le débat de cette émission dans quelques minutes, mais nous allons commencer avec vous, Didier, par évoquer un ministre qui reste
Oui,
et qui le mérite bien.
qui reste. Et on reproche souvent aux hommes politiques de se vautrer sans vergogne dans la langue de bois la plus basique pour les plus rustiques, ceux de la vieille école, ou au contraire d'user et d'abuser des stratagèmes subtils de la communication moderne pour les plus vicieux, afin de mieux manipuler et rouler dans la farine les malheureux qui se sont vus confier la rude mission de leur tirer quotidiennement les vers du nez, j'ai nommé les journalistes. Alors, bon, là, les fameux éléments de langage, on en aura gobé pendant la décennie Sarkozy, et ça a continué de plus belle sous Hollande. Heureusement, il y a dans le paysage politique actuel une perle rare qui ne mange pas de ce pain-là. Alors que tous ses confrères cèdent volontiers à la tentation de la rouerie et au vertige de la duplicité, lui reste droit dans ses bottes en caoutchouc, faisant face à la bourrasque des questions auxquelles il a décidé de ne pas répondre.
En fait, ce qu'on voudrait simplement savoir, si oui ou non, dans le texte qui a été pré-présenté ce matin, d'avant-projet de loi, figure ou non cette référence à la patrie.
Je vous ai répondu.
Ça veut dire que ça n'est pas tranché?
Est-ce que, Louise Baudet, vous pouvez aussi me poser la question de savoir si ça vous intéresse de savoir ce que je vous ai dit?
Ah non, mais ça, on a bien compris. On a juste une question simple.
Vous avez juste une question auquel j'ai répondu. Je n'irai pas au-delà.
Vous ne pouvez pas répondre, en fait.
Alors, on va se mettre bien d'accord. Je vous ai donné l'ensemble de ce qui a été présenté ce matin.
Ça veut dire que c'est pas tranché encore.
Mais vous avez bien vu que tout a été dit. Tout a été rappelé.
Non.
Alors, cette séquence a été tournée par une équipe du Petit Journal lors du point presse qui a suivi le Conseil des ministres de mercredi dernier, au cours duquel fut présenté le projet de loi sur la déchéance de nationalité. Et les journalistes présents voulaient juste savoir si le texte présenté en Conseil faisait référence à la binationalité et à l'apatridie. Interrogation légitime, on en conviendra. Mais pour une raison qui échappe à l'entendement, en tout cas au mien, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, avait décidé de ne pas leur répondre.
Est-ce que cette phrase figure ou non dans
vous avez tout à fait le droit de poser cette question. Vous allez la poser, moi j'imagine que d'autres la poseront. Je vous ai donné l'ensemble des dispositions qui ont été présentées ce matin au Conseil des ministres. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu.
Eh ben non, justement. Alors pourquoi Stéphane Le Foll refuse de répondre à cette question simple, mystère et boule de gomme? À ce moment-là, toutes les polémiques ont eu lieu. On sait que le projet de loi du gouvernement ne fera pas référence aux binationaux et que la question de l'apatridie va se poser. Les journalistes veulent juste en avoir une confirmation formelle. Il n'y a strictement aucun enjeu. Et pourtant, Le Foll ne veut rien lâcher. La seule explication, c'est que c'est un paysan, qu'il est breton et donc têtu, et que les têtes des journalistes qu'il a en face de lui ne lui reviennent pas.
Il reste une ambiguïté et nous, on veut pas écrire des choses qui soient fausses ou ambiguës.
Si c'était la règle qui s'appliquait à chaque fois que vous écrivez des choses.
Eh bien, aujourd'hui, la règle s'applique. Aujourd'hui,
elle s'applique. Écoutez, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans ce débat et ce procès. Il y a quand même des moments aussi où chacun doit avoir un peu de respect. Je vous fais le point sur le Conseil des ministres. Je vous dis ce qui a été dit et je l'ai dit de manière très précise. Donc maintenant, s'il vous plaît, il y a un moment où vous pouvez répéter, même aller jusqu'à dire.
On répète pas. On veut simplement que les choses soient.
Mais vous aurez tout le temps. Il y a un débat vendredi. Je vous dis ce qui a été dit ce matin.
Rien à faire, hein. Le paysan breton est non seulement têtu, mais taiseux, et les journalistes repartiront vers leur rédaction, gros gens comme devant, comme on dit, à la campagne. Foin de ces éléments de langage et circonlocution fumigène que nous infligent habituellement les communicants politiques, manifestement, pour Stéphane Le Foll, un porte-parole, ça a aussi le droit de fermer sa gueule. Ou pas, ça peut l'ouvrir également, et en grand.
Je vous le dis, je trouve que pour une chaîne comme vous, ne même pas mettre la réponse à une question posée, c'est pas respecter le ministre. Je le dis devant la caméra. Et j'espère que ça va rester. Hein. Parce que moi, je fais le déplacement, j'y vais, on m'interview, je réponds, c'est normal.
Alors là, ce n'est plus au porte-parole que nous avons affaire, mais au ministre de l'Agriculture furieux que l'interview qu'il a donnée la veille à BFM lors d'un déplacement n'ait pas été diffusée. Du coup, il n'est plus taiseux du tout, notre paysan breton.
Je l'ai dit à votre journaliste. Je dis, mais vous foutez de moi. Vous prenez vraiment pour un con, hein.
Monsieur le ministre.
Donc ce matin, ça va barder, hein. Je vous le dis, moi. Bah, enfin, quand même. Je suis pas le syndicaliste du coin, je suis pas n'importe quoi. Je vais à Laval et vous m'interviewez et rien. Je lui dis à la fille, hein.
Je dirais
à
Hervé Leroux de venir tout à l'heure.
Bah ouais, c'est pas bien, hein. Donc je suis pas content, moi. Et si je suis ce matin, c'est pour le dire. Ça va?
Et hop, flagrant délit d'interventionnisme d'un membre du gouvernement sur le travail d'une journaliste appartenant à une rédaction libre et indépendante, des méthodes d'un autre âge qui ne sont pas sans évoquer les heures sombres de la Mitterrandie quand le ministre du budget Michel Charras menaçait les journalistes d'un contrôle fiscal s'ils ne rentraient pas dans le rang. Ouh, que c'est laid! Ah, c'est vraiment un communicant hors pair, ce Stéphane Le Foll. Il déteste tellement son job de porte-parole, donc de grand chef de la com du gouvernement, que même lorsqu'il a une bonne nouvelle à annoncer, il réussit à donner l'impression que ça lui arrache la gueule. Illustration. La terrible Élise Lucet l'interviewe dans le cadre d'un cache investigation sur les ravages des pesticides. Interview qu'elle va réaliser sur une carte de France géante des pesticides dangereux, réalisée à partir de données confidentielles, dit-elle.
Pourquoi cette carte, elle n'est pas disponible pour le grand public?
Bah écoutez, elle doit être disponible puisqu'elle est suffisamment grande et vous l'avez étalée ce soir.
Elle est disponible depuis ce soir, hein?
Oui, depuis ce soir. Tout le monde peut avoir l'accès à l'information. Et tout ça est tout à fait en capacité d'être disponible, hein. J'ai pas de...
Franchement, monsieur le ministre, non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, nous, cette carte, l'équipe de cash, on a mis 4 mois à la fabriquer. Ouais. C'est-à-dire qu'on a compilé tous les chiffres possibles et imaginables de vente de pesticides.
Donc ça, c'est votre carte?
Mais bien sûr, c'est nous qui l'avons réalisée. Pourquoi ces données ne sont pas accessibles au grand public? Ce sont des questions de santé publique, je pense que ça intéresse beaucoup de gens.
Répondez, monsieur Le Foll, ça intéresse les Français. Que fait Le Foll, à votre avis, quand il entend ça? Eh ben, il commence par s'énerver.
Madame Lucet, je n'ai aucun problème. Si la question qui est posée, ça serait de me demander si moi, je suis pour ou contre la transparence, je vous dis que je suis pour la transparence.
D'accord. Donc ça veut dire que désormais, vous, en tant que ministre de l'Agriculture, vous vous engagez pour qu'il y ait un accès à ces données pour le grand public.
Mais bien sûr, mais il n'y a pas de raison de ne pas donner accès aux informations.
Fidèle à sa réputation, la pugnace Élise maintient la pression sur son client.
Il y a un risque pour les populations exposées quand même.
Il y a un risque sur les populations qui peuvent être exposées à ce type de produits. Et c'est pourquoi il faut que des règles soient mises, discutées et mises en œuvre à chaque fois que sur des lieux où on utilise ces produits, il n'y ait pas justement de risque pour les populations.
Ça y est, se dit Élise, la machine à débiter des copeaux de bois est en marche. Il est à point, je porte le coup de grâce.
Votre objectif, par exemple, vous en êtes fixé, hein, j'imagine.
La question qui tue. Cet empoisonneur va être obligé d'admettre que le gouvernement n'a rien prévu pour endiguer ce fléau. Et là, surprise.
Votre objectif, par exemple, vous en êtes fixé, hein, j'imagine, un objectif. Et c'est quoi votre objectif?
2025, moins 50%.
Moins 50% en 2025.
Oui. Et
d'utilisation de pesticides ou de pesticides dangereux?
De pesticides de manière globale.
Et voilà, devant une Élise Lucet qui n'en revient mais, le porte-parole Le Foll vient d'annoncer que le gouvernement s'engageait à réduire l'épandage de pesticides de 50% en 10 ans. Fallait juste réussir à lui faire avouer sous la torture. Conclusion, Stéphane Le Foll est le porte-parole le plus nul en communication politique dont un gouvernement français se soit doté depuis longtemps. Et à ce titre, il a le droit à toute notre estime. D'ailleurs, il conserve son poste.
Merci Didier. On continue à parler de médias dans quelques instants, de l'indépendance des médias plus particulièrement et de la manière dont une loi pourrait éventuellement mieux garantir cette indépendance. À tout de suite. Alors, garantir l'indépendance des grands médias, notamment audiovisuels, vaste programme, c'est le but d'une proposition de loi actuellement à l'Assemblée. Alors, proposition qui est née, évidemment, Justine, du feuilleton Bolloré, qui nous occupe depuis bientôt un an.
Oui, c'est l'histoire d'un industriel, Vincent Bolloré, devenu président du conseil de surveillance du groupe Vivendi en 2014. Alors, Bolloré a-t-il l'esprit canal? Le 12 février 2015, il était interviewé par Léa Salamé sur France Inter, et déjà, il y donnait une définition toute personnelle de sa chaîne. On le regarde.
C'est quoi l'esprit canal?
Cathy Perry. C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative, parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Mais
ils ne vous font pas toujours rire?
Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien, se moquer des autres, c'est moins bien.
Ça, c'est bien vrai. Alors, avant d'en arriver à la suite de notre dossier, on va quand même présenter les invités qui sont sur ce plateau, ce que j'ai juste oublié de faire avant de lancer cet extrait. Trois invités, dont Justine.
Oui, Patrick Bloch, vous êtes député de la 7e circonscription de Paris. À l'Assemblée nationale, vous êtes aussi le président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et vous êtes auteur de cette proposition de loi visant à renforcer la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Vous nous direz en quoi elle consiste. Jean-Baptiste Rivoire, vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine spécial Investigation, diffusé sur Canal+. À ce titre, vous avez eu quelques petits déboires avec votre actionnaire Vincent Bolloré, à la fois personnellement et puis de manière générale, vous avez pu observer depuis un an la mainmise de cet actionnaire sur son groupe. Vous nous raconterez comment. Vous êtes également représentant syndical SNJ-CGT. Enfin, Julia Cagé, vous êtes économiste. Vous avez publié en 2015 « Sauver les médias ». Capitalisme, financement participatif et démocratie au seuil. Vous y plaidez pour un pluralisme dans la propriété des médias, c'est-à-dire que vous mettez, vous vous attaquez en fait au problème de la concentration des médias en France entre les mains de quelques grands patrons de presse.
Cette présentation est en fait suite du feuilleton Bolloré, donc.
Alors, Bolloré a-t-il l'esprit canal ? On l'a vu à petite dose. Ça, c'était en février. La situation s'est compliquée pour les salariés du groupe à l'été 2015. D'abord avec l'affaire des Guignols. Donc après un psychodrame à rebondissement, les Guignols passent en crypté avec pour consigne de parler moins de politique française. À la fin juillet 2015, cette fois à la fin de l'été, on apprend qu'un documentaire sur une filiale suisse de la banque Crédit Mutuel a été censuré par Vincent Bolloré. Le Crédit Mutuel, on le rappelle, c'est l'un des principaux partenaires financiers du groupe Bolloré. Alors, les questions commencent à se poser hein, sur dans quelle mesure Bolloré contrôle ce qui se passe à Canal+, mais malgré ces quelques exemples, le 1er octobre 2015, sur France Inter, la nouvelle présentatrice du journal, Maïtena Biraben, assure que Vincent Bolloré n'intervient pas sur son programme.
Ce matin, le supplément télé de l'Obs, qui est très lu par la profession, publie une enquête titrée « Le coup d'État médiatique ». Illustration du papier, un photomontage assez habile où on voit la tête de Bolloré partout sur le plateau du Grand Journal. À votre place, à celle de vos chroniqueurs, à celle des invités et dans celle du public.
Alors, au mieux, j'ai Vincent Bolloré dans mon oreillette. Au pire, je n'ai plus de cerveau. Donc, Vincent Bolloré n'est pas dans mon oreillette et j'ai un cerveau, le même que l'année dernière quand je faisais le supplément et le même que l'année prochaine quand je ferai le Grand Journal ou autre chose. Vincent Bolloré ne m'a jamais appelé pour me demander quoi que ce soit sur cette émission, il n'a jamais appelé les producteurs pour leur demander quoi que ce soit, il n'intervient pas dans l'éditorial, c'est nous qui décidons de ce que nous faisons.
Alors, est-ce qu'il y a des censures, des interventions, une influence entre les rumeurs d'intervention et les interventions avérées de Vincent Bolloré ? C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Vous en avez fait l'expérience, Julia Cagé, face à un journaliste d'Europe 1, hein, Thomas Soto, qui, lors d'une interview le 3 février, vous a objecté que toutes ces choses que l'on savait sur Bolloré, finalement, n'étaient que des rumeurs. On écoute.
Si on regarde le contexte particulier de la France en 2015, il y a quand même eu un certain nombre de phénomènes, je pense en particulier à ce qu'a fait Vincent Bolloré à Canal+, où il a décapité les chaînes des rédactions, où il a censuré des documentaires, où il a supprimé les Guignols avant de les faire revenir encryptés. Ça s'est vraiment vu, et je pense que ça a joué...
Même si tout ça, finalement, ça a été des rumeurs. Certains disent oui, ça s'est passé comme ça.
Sur les Guignols, c'est non. Plus en clair.
Alors tout ça, c'était des rumeurs, dit Thomas Soto. C'est vrai que sur le moment, on n'a pas très bien su si notamment cette fameuse censure du documentaire sur le Crédit Mutuel était directement attribuable à une intervention de Bolloré. On est plusieurs mois après. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est des rumeurs ou c'est pas des rumeurs ?
Non, c'est pas des rumeurs. Thomas Soto est mal informé. En fait, il y a eu cette censure dès le mois de mai 2015 de cette enquête sur le Crédit Mutuel. Ça a été révélé par Mediapart à l'été.
Il y a pas eu le Magazine Society.
Et le Magazine Society, il n'y a pas eu le moindre démenti de la chaîne Canal+.
Oui, enfin, ça, bon, c'est pas parce qu'ils démentent pas que c'est. Vous savez bien, vous êtes journaliste d'investigation.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Sauf que, pour finir, donc le 3 septembre, il y a un comité d'entreprise à Canal. Bolloré est présent. Une question précise lui est posée sur la censure du Crédit Mutuel et il assume.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il assume en disant. C'est pas de la censure, c'est de la connerie. La censure, ça serait de dire que Sarkozy est un tibien et Hollande est un idiot. Il faut pas embêter les partenaires du groupe, attaquer la BNP ou le Crédit Mutuel. Évidemment, c'est débile, c'est comme attaquer le propriétaire de l'immeuble.
Il dit ça.
Il dit ça.
D'accord. C'est enregistré quelque part.
Il y a un compte rendu écrit du CE du 3 septembre,
comme dans
tous les comités d'entreprise. Et 15 jours après, le 16 septembre, une représentante de la direction de Canal vient nous dire, toujours à une question sur la censure de Crédit Mutuel, je cite, la direction tient avant tout à défendre les intérêts du groupe Canal et estime qu'il est donc préférable d'éviter certaines attaques frontales ou polémiques à l'encontre des partenaires actuels ou futurs du groupe. Suite à cette déclaration, on a essayé à quelques-uns d'essayer de savoir quels étaient donc les partenaires actuels de Vincent Bolloré et futurs. On n'a pas eu de réponse et donc depuis ce temps, dans tout Paris, les agences de presse qui essayent de travailler pour Canal+ se creusent la tête pour essayer de savoir donc qui sont les partenaires actuels, amis, partenaires futurs éventuels de Vincent Bolloré. Autant vous dire qu'on reçoit beaucoup moins de projets d'investigation. Je crois que le message, malheureusement, est passé.
Mais alors attendez, vous êtes toujours rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation.
Oui.
Alors comment ça se passe aujourd'hui, je veux dire sur quoi vous pouvez investiguer, pas investiguer? Est-ce que c'est clair? Quels sont les projets que vous lancez?
Ça se passe, si vous voulez, que quand Vincent Bolloré initie cette censure grave, et il n'y a pas que le Crédit Mutuel, hein, on avait aussi une enquête sur la BNP qui a disparu, autant vous dire, il n'y a plus un seul producteur qui nous a envoyé le moindre projet d'enquête sur le monde bancaire. Il n'y aura plus d'enquête sur les banques, pour l'instant, apparemment, à Canal+. Mais
pourquoi vous n'en commanderiez pas, vous?
Mais parce que ça ne passe pas. C'est-à-dire que nous, on est soumis à ce qu'on appelait jusque-là un comité d'investigation tous les deux mois. On doit aller avec nos petits projets voir la direction et demander l'autorisation de faire des enquêtes. En gros, sous l'ancienne direction, ça passait à 80 ou 90% des cas. Bon. Depuis que Vincent Bolloré est sorti des fougères et a manifesté son pouvoir dans cette entreprise, si vous voulez, ça se passe beaucoup plus mal. Et donc, on est retoqué régulièrement.
Par exemple, qu'est-ce qu'on vous a retoqué là dans les derniers mois? Si on a beaucoup parlé de l'histoire du Crédit Mutuel et aussi de celle de la BNP, mais on vous a retoqué d'autres projets?
Oui, je vais vous dire. Donc Crédit Mutuel retoqué, BNP retoqué, une enquête sur la répression made in France, c'est-à-dire comment la France est un pays extrêmement fort pour exporter ses méthodes de répression, ses matraques électriques, etc., des régimes plus ou moins recommandables. Ça, c'est bloqué depuis plusieurs mois. Donc si vous voulez, les producteurs, ils travaillent gratuitement, on leur donne pas un euro, ils essayent de proposer des sujets d'enquête. Bon, ils font travailler des jeunes journalistes en quelques semaines, une fois, deux fois, trois fois. Déjà, le taux de refus, c'est quand même assez important. Bon, là, ils se disent, alors, les banques, OK, stop. Là, le dernier comité d'investigation, par exemple, nous avons proposé à la direction 11 projets d'enquête. On en propose toujours une dizaine pour deux mois, parce qu'en fait, il y a 8 émissions sur deux mois, donc pour remplir l'antenne, on en propose toujours une dizaine. On a eu 7 refus.
Par exemple, vous avez une idée des sujets,
Volkswagen, l'entreprise de tous les scandales, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Le Monde selon YouTube, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. François Homeland, une enquête sur le président et les guerres. A-t-il les moyens de faire autant de guerres? Est-ce que ça n'a pas des conséquences perverses? Projet refusé par la direction de Vincent Bolloré. Attentat, les dysfonctionnements des services de renseignement. Attentat, 130 morts en novembre. Projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Les placards dorés de la République. Comment des préfets se retrouvent nommés 15 000 euros pour être hors cadre. Bref, les emplois fictifs dans l'autre fonction publique. Projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Répression made in France, censure confirmée par la direction de Vincent Bolloré. Et le dernier, Nutella, les tartines de la discorde. Refusé également Nutella par aussi. La direction de Vincent Bolloré. Donc voilà, on va faire des enquêtes.
Alors,
sur...
Excusez-moi,
mais qu'est-ce qui a été accepté par contre?
Alors, sur ce comité, donc je ne peux pas trop le dire parce que c'est confidentiel. C'est-à-dire, ce que Canal lance, on n'a pas envie que la concurrence s'y intéresse. Mais enfin, si ça continue comme ça, on va faire des sujets sur les trésors sous les mers et les ours polaires.
– Et lors des comités d'investigation qui avaient lieu, qui prévoyaient ce qui allait être diffusé, qui avaient lieu avant les nominations par Bolloré, en moyenne, combien de sujets étaient gardés et combien étaient rejetés ?–
On passait entre 90 et 100% de nos propositions, et parfois, quand un sujet ne passait pas, il pouvait y avoir une bonne raison. Ça pouvait être que ça avait déjà été fait ailleurs, etc.
– Patrick Boyle, juste une réaction à cette liste absolument surréaliste de sujets dont on n'a plus le droit de parler maintenant sur Canal+.
En écoutant cette liste, évidemment, ça confirme l'intitulé qu'on a donné cette proposition de loi, que j'essaie de démentir, mais je vais avoir beaucoup de mal à démentir le fait qu'on appelle cette proposition de loi une proposition de loi anti-Bolloré, justement. D'abord parce que ça vise, évidemment, tous les actionnaires de tous les médias, que ce soit la presse écrite ou de visuel, ou encore la presse en ligne, mais quelque part, j'y vois la justification de l'initiative que nous avons souhaité prendre.
Je lui ai caché juste une réaction comme ça à la lecture de cette liste, je dois dire, absolument surréaliste.
Je ferai une meilleure interview la prochaine fois sur Europe 1. J'aurai des exemples encore plus nombreux, encore plus concrets. C'est assez intéressant. Moi, ce qui me frappe, même dans les discussions avec les journalistes en général, c'est qu'ils vous donnent toujours des contre-exemples. Donc, par exemple, discussion que j'ai eue cette semaine, on me dit, mais regardez, le Monde, c'est pas un problème d'avoir Berger, Niel, Pigas, parce que Pigas, banquier d'affaires, ils ont quand même parlé du scandale Wikileaks, ils ont quand même parlé d'HSBC, alors que c'est la banque d'affaires. Là, bah, encore heureux. Et en fait, on en vient presque à essayer de trouver des contre-exemples. Bah oui, mais peut-être ce journal, tiens, Le Monde a fait une page sur Niel et sur Free, ils ont été critiques par rapport à leurs actionnaires. Mais on ne devrait pas en être dans une situation où on se pose ce genre de questions. On devrait être dans une situation où on garantit la liberté des journalistes de faire leur travail. Et ce qui est problématique, en fait, dans l'univers actuel, c'est qu'on essaie de voir, ah, Bolloré, il est méchant, Drahi, c'est pas terrible, peut-être que Niel, il est gentil, on essaie de mettre des étiquettes, mais on ne devrait pas se reposer sur le bon vouloir des actionnaires. Il y a peut-être des types bien, il y a peut-être des types pas bien, mais il ne faut pas se reposer, ce n'est pas au petit bonheur la chance là-dessus. Il faut qu'il y ait une régulation beaucoup plus forte qui protège concrètement et avec des sanctions financières contraignantes l'indépendance des journalistes.
Ce que je note par exemple, dans toute la liste que vous avez énumérée, là, c'est qu'on vous a retoqué un sujet sur YouTube, YouTube concurrente Dailymotion, Dailymotion qui appartient à Bolloré, donc voilà, là pour le coup, sachant un peu comment vous travaillez, la direction aurait pu espérer que vous fassiez un sujet au canon sur YouTube et se dire ça va être bon pour Dailymotion.
Alors, il arrive quand une proposition qu'on peut faire touche de près ou de loin les intérêts de Canal, que ça les gêne, pas forcément parce qu'ils ont peur qu'on critique le groupe Canal, mais au contraire, ça peut être qu'ils ont peur qu'on critique un concurrent et que donc on soit perçu comme instrumentalisé par la direction pour aller taper sur un concurrent. Ce qu'on fait pas, on n'est pas là pour servir la direction ni lui nuire. Bon. Mais ça, c'est des craintes qu'ils peuvent avoir, mais on les a toujours désamorcées. Bon.
Alors, moi, c'est la première fois que j'entends une liste précise comme ça de sujets retoqués. C'est évidemment très, très impressionnant. Vous craignez pas, en parlant ici, maintenant, des représailles de la part de la direction ?
Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Vous virez. Alors, vous allez me répondre que vous êtes protégé par votre statut de délégué syndical.
Non, c'est pas vrai. Hein. Ça protège, ça oblige la direction à demander une autorisation aux autorités françaises. Ils la demanderont peut-être, et alors quel est le problème? De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre sous Vincent Bolloré pour faire du journalisme? C'est quand même une vraie question. Hein.
Très bien. On est en tout cas impressionné par le risque que vous prenez.
C'est un ancien licencié qui vous parle.
Doublement licencié. Doublement licencié. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on peut faire? Ça va être le sujet. Alors, peut-être, pour venir avec vous sur le fond de vos propositions, un petit résumé d'abord par Justine.
Un résumé des différentes tentatives qu'on a perçues depuis l'année dernière pour contrôler un petit peu cette prise de pouvoir de Vincent Bolloré, même s'il ne faut pas dire que c'est lui qui est visé. Mais d'abord, en octobre 2015, il y avait la ministre de la Culture de l'époque, Flore Pellerin, qui s'était un peu réveillée en proposant ce que les journalistes ont vite fait d'appeler un amendement anti-Bolloré, qui prévoyait notamment de donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au CSA, un droit de regard sur la composition des comités d'éthique des chaînes et, toujours proposition de Flore Pellerin, de permettre aux journalistes de bénéficier du statut de lanceur d'alerte.
Statut qui n'existe pas par ailleurs en France.
Statut qui n'existe pour l'instant
pas
en France.
Bon.
Le CSA a également tenté de jouer à sa mesure sur cette question de Bolloré. Il l'a auditionné et lui a notamment demandé de mettre en place un comité d'éthique pour Canal+. Alors, l'industriel y a répondu à sa façon, avec un casting très personnel, puisqu'il l'a mis en place, mais parmi les 6 membres de ce comité d'éthique de Canal+, on trouve 2 personnes qui ont des liens d'affaires avec Vincent Bolloré, le directeur de Slate.fr Jean-Marie Colombani et l'expert comptable René Picole.
Ricole,
pardon. je ne me prononce pas sur René Ricole. Le CSA n'a donc pas été très très content de cette composition du comité d'éthique. Il s'est fâché et donc que fait le CSA? Quand il se fâche, il a envoyé une lettre. En janvier, enfin, on a eu des nouvelles de ce projet d'amendement Pellerin qui est entre-temps devenu une proposition de loi, carrément, portée donc par vous, Patrick Bloch, au titre de président de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Alors, on peut en retenir... –
Vous l'avez lu attentivement, cette proposition de loi, Justine, qu'est-ce qu'on en retient ?–
On peut en retenir, à mon avis, 3 idées principales, et vous détaillerez. Mais d'abord, l'idée de généraliser les comités d'éthique, cette pratique des comités d'éthique à l'ensemble de l'audiovisuel. Alors, peut-être que vous pouvez nous raconter pour qui ils étaient obligatoires jusqu'à maintenant, ces comités d'éthique ?
Alors voilà. Ah ben, ils n'étaient pas obligatoires.
Pour personne.
Donc la loi va donner un caractère obligatoire à ces comités d'éthique et surtout, plus important, bien sûr, va s'assurer que ces comités d'éthique sont indépendants par rapport aux actionnaires.
Ah, voilà.
Dans
ça,
leur
c'est
composition.
Chose. Ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire,
bien sûr.
Pour l'instant, ils n'étaient obligatoires pour personne.
Non,
sauf, si j'ai bien compris, si les médias audiovisuels avaient passé une convention avec le CSA, et convention dans laquelle il était prévu qu'il crée un comité
oui.
d'éthique. Voilà.
Tous les médias audiovisuels, c'est la contrepartie à l'attribution d'une fréquence, à l'autorisation de diffuser, passe une convention avec le CSA. Alors, ces conventions peuvent prévoir d'ores et déjà un comité d'éthique. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et on a vu émerger des comités d'éthique. Alors, déjà, il faut qualifier ce qu'on appelle comité d'éthique, parce que parfois, il y a par exemple dans le groupe BFM TV, groupe Next, un comité qui est plus un comité dit de la diversité qu'un comité d'éthique en tant que tel. Et puis, à partir du moment où ces initiatives vont un peu dans tous les sens, que le CSA essaye avec justement son bras armé, qui est la convention, hein, puisque... Vous avez eu pour la chaîne 23 les conséquences que ça a eues. Donc, à partir de là, nous avons souhaité inscrire dans la loi, effectivement...
Ce sera obligatoire.
Ce sera obligatoire et la composition visera évidemment à ce que les membres de ce comité d'éthique soient indépendants par rapport aux intérêts des actionnaires avec une durée de 3 ans.
C'est le deuxième aspect.
Sachant que le CSA, validera la composition et le fonctionnement du comité d'éthique.
C'est ça. Donc le deuxième point, c'est généraliser ce comité d'éthique. Deuxièmement, et s'assurer que les personnalités qui y siègent sont indépendantes. C'est une réponse assez claire aux dominations faites par Vincent Bolloré au sein du comité d'éthique de Canal+.
C'est assez clair, notamment par rapport donc à Jean-Marie Colombani et à René Ricol.
D'accord. Alors le troisième point, alors qui a déjà fait grincer des dents dans la loi, c'est le rôle du CSA justement. Enfin, dans la proposition, pardon.
Oui, puisque donc la proposition fixe un certain nombre de principes. Mais dans la plupart des articles, l'institution qui est chargée in fine de garantir que ces principes soient appliqués, c'est le CSA. Par exemple, ça gêne le syndicat majoritaire dans la profession, le SNJ, qui a dit que faire du CSA le garant de l'indépendance des journalistes, c'était un cauchemar.
Oui, mais parce que j'ai auditionné le SNJ, puisque cette proposition de loi viendra en discussion devant ma commission le 2 mars et est d'ores et déjà inscrite en séance à l'Assemblée nationale le 8 mars. Hein. Donc
vous
on
êtes
est.
Auditionné, mais pas convaincu apparemment.
Non, alors, pas
non mais
vous
voyez bien l'objection, c'est dire le CSA, son président est nommé par le président de la République, en faire le garant de l'indépendance des journalistes.
Justement, c'est là où j'ai essayé de persuader le SNJ qu'il s'était passé quelque chose dans la loi du 15 novembre 2013, qui a été un peu la première étape dans notre démarche législative durant ce quinquennat de redonner de l'indépendance aux médias. C'est donc cette loi du 15 novembre 2013 sur l'indépendance de l'audiovisuel public qui redonne au CSA justement son pouvoir de nomination des présidents des sociétés d'audiovisuel public. Et parallèlement, alors ces dispositions sont passées plus inaperçues, c'est que nous avons été amenés à travailler pour redonner de l'indépendance au CSA par rapport aux critiques dont il avait fait l'objet à un moment où il était monocolore.
Je veux dire, le président du CSA sera toujours nommé par le président de la République.
Oui,
donc,
bien sûr.
Comment on peut redonner de l'indépendance
Sauf que le président du CSA, et on l'a vu notamment au moment de quelques nominations récentes, il n'a pas un pouvoir absolu. Ce n'est pas lui qui décide. Il y a un collège avec des gens qui votent.
Vous parlez de quelle nomination?
Qu'on s'est retrouvé, puisque c'est une notoriété publique, au moment de la nomination de Delphine Ernotte, vous savez qu'on s'est retrouvé à un moment donné dans une situation de blocage où il y avait 4 voix pour Delphine Ernotte et 4 voix pour Pascal Joseph. Donc, faire d'Olivier Schramek le maître, celui qui décide et qui impose aux membres du collège son bon vouloir est à mon avis ou extrapoler sur la façon dont ça se passe au CSA. C'est un collège.
Mais on peut dire
surtout
que la nomination de Delphine Ernotte a été une manifestation d'indépendance du CSA par rapport au pouvoir politique. On peut dire que...
Bien sûr.
On peut dire que le pouvoir politique ne voulait pas de Delphine Ernotte. Ça ressort de vos informations.
C'est pas qu'il ne voulait pas. Mais de la même façon, je peux dire qu'il... le pouvoir politique a aucun moment dit « je veux Delphine Ernotte ». Et Olivier Schramek n'a pas été aux ordres.
Il dit pas ça comme ça. Moi, je connais pas bien les coulisses, mais j'ai lu partout que la campagne de Delphine Ernotte avait été notamment faite par un certain nombre de personnalités, dont l'ancien conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée. Donc,
Quand le jour où je ne serai plus parlementaire... Oui. J'espère dans un certain nombre d'années. Donc quand il y aura quelque part l'idée que mon devoir de réserve d'aujourd'hui ne s'imposera plus, je vous expliquerai. Je vous dirai ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que la nomination de Delphine Ernotte s'est faite en toute indépendance à l'égard du pouvoir politique. Je l'affirme.
Des infos là-dessus.
Moi, j'espère que vous nous expliquerez pourquoi Marie-Christine Saragosse n'a pas été auditionnée, par exemple. Ce que personne n'a compris. Enfin, moi, ce qui...
Alors Marie-Christine Saragosse, c'est qui ?
Qui est à la tête de France 24, qui était candidate, qui partait parmi les candidates avec un des plus beaux projets dont tout le monde s'attendait à ce qu'au moins elle soit auditionnée. Elle n'est pas auditionnée, elle n'en est pas...
Qui a nommé Marie-Christine
Saragosse ? Le CSA, j'imagine.
Non. Ben non, justement.
Marie-Christine Saragosse... C'est le ministère des Affaires étrangères.
Non, Marie-Christine Saragosse était nommée par François Hollande. Certes, il avait pris l'avis du CSA, mais il avait été nommé par François Hollande. Donc, je veux dire par là, dire si Marie-Christine Saragosse avait été auditionnée, voire désignée, le CSA aurait montré son indépendance, à mon avis, l'interprétation eût été contraire.
On va revenir au cœur du problème.
Si je peux me permettre.
Non, on va revenir. Le cœur du problème, c'est que ce n'est pas fait de manière transparente. Déjà, les auditions, mais ça a été pareil avec l'audition de Vincent Bolloré. Non, c'est ça le cœur du problème, parce que vous voyez, on discute, on suppute. Pourquoi on suppute ? On suppute parce qu'il n'y a pas de transparence. Vous n'êtes pas autorisé à parler, vous êtes sous votre devoir de réserve, ça c'est quelque chose qui est complètement compréhensible. Donc vous, en tant que journaliste, moi en tant que chercheur, on essaie d'avoir des preuves, on discute, on passe des coups de fil à droite à gauche, on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Et le truc, c'est que ça ne devrait pas se passer comme ça. La manière dont ça devrait se passer, c'est premièrement d'avoir une liste des candidats qui soit publique dès le départ. Alors que le CSA a introduit cette règle pour dire, voilà, pour protéger les différentes personnes qui seraient peut-être en poste à droite, à gauche, on ne veut pas les mettre en danger. Donc on est candidat, mais ça reste secret. Deuxièmement, que les dossiers, du coup, avant même qu'on décide qui va être auditionné, soient mis sur Internet, soient rendus publics et que chacun puisse y avoir accès et... juger de la valeur du projet, mais comme quand vous savez quand il y a une élection pour un député, on a son programme, il n'est pas tenu secret jusqu'au dernier moment. Et troisièmement, qu'ensuite les auditions soient publiques, c'est ça le problème au cœur du CSA aujourd'hui.
Très rapidement, parce qu'on n'est pas dans une émission sur l'indépendance du CSA.
La nomination de Mathieu Gallet, c'est quand même, c'est pas moi qui ai inventé le fait que Mathieu Gallet avait invité en week-end un certain nombre des membres du CSA à l'époque où il était encore candidat, secret. Enfin, je veux dire, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, le manque d'indépendance du CSA.
Vous m'avez
C'était dans les journaux.
Vous m'avez interpellé sur l'indépendance du CSA à l'égard du pouvoir politique.
Parce qu'elle est au cœur du
la nomination de Mathieu Gallet, ancien membre du cabinet de Frédéric Mitterrand, n'a quand même pas été vécue comme une volonté venant du gouvernement même de l'Élysée.
Sur l'opacité de la procédure.
Je vais y arriver. Petit 2. Nous avons été amenés dans la loi du 15 novembre 2013, c'est ce que je me suis permis de rappeler aux représentants du SNJ, notamment à Dominique Pradalier, que je connais depuis si longtemps, qu'elle n'a pas eu une disposition qui a changé énormément de choses. Je dis cela parce que je l'ai portée. Les membres du CSA nommés par le président de l'Assemblée nationale comme le président du Sénat doivent voir leur candidature validée aux 3/5 des commissions permanentes. C'est-à-dire qu'il y a un effet de neutralisation politique qui amène à ce que les membres du collège du CSA ne peuvent être nommés que par consensus entre la majorité et l'opposition.
Mais qui ne répond pas à la question sur l'opacité de la procédure. Est-ce que ça vous paraîtrait pas normal, à vous des parlementaires, que les procédures de nomination à des postes aussi importants que président de France Télévisions soient totalement transparentes et que notamment les auditions soient transparentes ?
Écoutez, nous avons été amenés, dans la loi du 15 novembre 2013, à prendre un certain nombre de dispositions, notamment de professionnalisation, d'indépendance des membres du collège du CSA et personnes, quand Nathalie Sonnac et Nicolas Curien, qui ont été les deux nommés en janvier 2015, ont rejoint le CSA. Mais s'il faut prendre des initiatives...
Vous êtes favorable ou pas à ce que les auditions soient transparentes quand il s'agit de nommer le président de France Télévisions, le président de Radio France ? Vous êtes favorable ou pas ?
Écoutez, de ce point de vue, d'expérience pour y avoir participé, j'ai effectivement vécu la nomination de deux présidents, et notamment la présidente actuelle de la chaîne parlementaire. Ce sont des auditions publiques retransmises en direct sur le site de l'Assemblée nationale, donc je conviens que c'est... Je trouve ça très bien, j'y ai participé.
Pourquoi pas pour le président de France Télévisions ?
Je veux dire par là qu'il y a un enjeu pour les trois groupes, et on parle notamment de France Télévisions, mais ça vaut autant pour Radio France, d'essayer de trouver des compétences managériales qui, en termes de candidature, peut amener à ce que des personnalités en responsabilité, notamment dans le privé, veuillent être candidats.
D'accord. Alors ça, c'est avant que la candidature soit officielle, on est d'accord. Mais une fois que la candidature est officielle, que le candidat est sorti du bois...
Ça change pas grand-chose.
On a vu...
Votre candidature est officielle, si jamais vous n'êtes pas choisi, après, c'est un peu compliqué. Bon, passons. Je veux bien qu'on revienne...
Le candidat, quand il est auditionné, pourquoi ce ne serait pas public ?
Oui, mais je veux dire par là, je veux bien qu'on mette de la transparence, que ces auditions soient publiques. Mais par rapport à la question initiale que vous me posiez, en quoi le CSA n'est pas indépendant, je ne pense pas que c'est parce qu'il y aura la transparence des auditions que ça donnera du CSA une image plus indépendante que celle qui est la sienne aujourd'hui.
Pardon, l'instance de régulation de l'audiovisuel en France a son président nommé par le pouvoir exécutif. Quelle est son indépendance ?
Oui,
nous, pendant...
Non, mais attendez, pendant plusieurs mois... C'est un collège, je ne vais pas reprendre le débat sur le fait que c'est un collège. Je veux dire, qui était de neuf membres et qui sera bientôt sept membres.
Le collectif Liberté d'informer, qui a essayé de se battre sur le problème de la censure à un canal, a été voir le CSA, M. Bloch, pendant des mois, en donnant tous les éléments... Le CSA n'a pas bougé le petit doigt. Ils sont en train de torpiller l'indépendance éditoriale de Canal+. Le CSA ne bouge pas. Et la seule personne de votre majorité gouvernementale qui a fait une déclaration marquante, c'est Fleur Pellerin, qui a déclaré « Il n'y a aucune preuve d'intervention directe du patron de Canal dans la déprogrammation de certains programmes, d'accord, sur France Inter. Après que les choses se soient passées, que Mediapart l'ait révélé, qu'il n'y ait pas eu de démenti, et que Vincent Bolloré en personne et que la direction de Canal+ soit venue devant les élus et devant toute l'entreprise reconnaître la censure.
Cela dit,
le pouvoir politique, il est en dehors de la réalité. C'est admis, c'est reconnu, c'est prouvé. Et Fleur Pellerin nous explique qu'il n'y a pas de problème.
Alors, qui va être en examen le 8 mars prochain. Oui. Elle a été inscrite parce que le gouvernement, on est sous la 5e République, a accepté qu'elle soit inscrite. Là-dedans, vous avez des dispositions, on va y revenir, j'espère, parce que c'est l'objet du débat, qui correspondent parfaitement à la situation que vous avez décrite. Donc, vous ne pouvez pas dire que le pouvoir politique ne bouge pas.
Vous plaisantez. Les comités d'éthique, Vincent Bolloré va continuer à nommer le comité d'éthique de Canal. On est d'accord. Il peut nommer ses amis.
Mais vous savez très bien qu'il est dans une situation conflictuelle avec le CSA, justement, sur la composition du comité d'éthique. C'est bien le CSA qui retoque et Colombani et Ricol.
Sur ce point précis, des comités d'éthique en toque. D'accord ? Bolloré va continuer à nommer les membres du comité d'éthique qu'il va dessiner.
Non, Jean-Baptiste. Si j'ai bien compris la proposition de loi, il ne pourra plus. Puisqu'on va vérifier.
Non, mais il ne pourra plus nommer Colombani. Il nommera des membres. C'est lui qui choisira des membres sous condition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui de facto aujourd'hui pouvaient nommer
pas tout le monde à la fois. Jean-Baptiste Rivoire,
il continuera à nommer les membres du comité d'éthique. Certes, il ne pourra plus, si la proposition de loi passe, nommer des gens qui ont des liens d'affaires avec lui.
Et ça, c'est pas mieux, il nommera ses amis.
Mais non,
ça va pas assez loin, excusez-moi,
je suis au cœur d'une réaction censurée depuis des mois. Mais parce qu'il va nommer ses amis personnels sans qu'ils aient de liens d'affaires avec lui, et que ses amis personnels feront exactement ce qu'il va leur demander de faire. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi.
Réponse à ce point précis, c'est vrai que comment on peut l'empêcher de nommer ses amis personnels
C'est un comité d'éthique qui est attaché à une société déterminée. Je veux dire, ce comité d'éthique voit, au-delà de l'indépendance de ses membres, c'est un paragraphe entier de l'article 7, la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue avec le CSA.
Jean-Baptiste, il va nommer ses copains. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il va nommer ses copains, parce qu'il doit bien avoir des amis avec lesquels il n'est pas en relation d'affaires.
Moi, je veux bien faire le bonheur des gens malgré eux, mais je veux dire par là qu'on voit d'où on part. Je veux bien que vous torpilliez les dispositions de ma proposition de loi, qui est la proposition de loi d'ailleurs du groupe auquel j'appartiens à l'Assemblée nationale, mais ça correspond très précisément à la situation actuelle, avec un souci d'efficacité dont vous verrez évidemment les conséquences. Je rappelle en plus, s'il le fallait, que ce comité d'éthique peut évidemment s'autosaisir, qu'il peut être consulté pour avis non seulement par la direction de la société, mais par toute personne, c'est-à-dire non seulement par les salariés, mais par n'importe qui d'entre nous.
Donc les amis de Vincent Bolloré nommés par Vincent Bolloré vont s'autosaisir pour empêcher Vincent Bolloré de faire des censures dans le groupe de médias dont il a pris le contrôle. Et vous pensez qu'on va vous croire ?
Non, mais moi, je pense qu'il faut apaiser les... Il faut apaiser les débats.
Non, j'ai pas d'argument, parce que là, si vous voulez, on fait une proposition de loi qui est mal vécue par tous les possesseurs de médias, que ce soit la presse écrite et la presse audiovisuelle. Je ne peux pas vous inviter à mes auditions, mais j'aime mieux vous dire, j'en prends plein la gueule. Donc, si vous voulez, à l'arrivée, que vous considériez que ça sert à rien, c'est votre point de vue personnel, permettez-moi de contester, c'est tout.
Non, moi, j'ai lu dans les détails cette proposition de loi et je pense qu'il n'y a rien de négatif dedans, parce que tout ce qui est dans la proposition va dans le bon sens, je pense qu'il n'y a rien qui va assez loin. Sur la question des comités d'éthique, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas qu'à Canal. On a des journalistes qui, à l'intérieur des chaînes, et d'ailleurs pas que des chaînes, après il y a la question de audiovisuel versus Internet versus la presse écrite, sont dans une situation d'extrême précarisation, d'extrême fragilité. C'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup moins de protestations avec l'arrivée de Bolloré à Canal+, qu'on en avait eu au début des années 2000 avec Jean-Marie Messier, parce qu'à l'époque, encore, un journaliste pouvait partir en claquant la porte, c'était plus simple de trouver un emploi ailleurs. Aujourd'hui, la profession dans son ensemble est précarisée. C'est pour ça que je pense qu'il ne faudrait pas laisser les journalistes, finalement, seuls face à leur direction, mettre en place ce comité d'éthique. Et moi, personnellement, je suis pour qu'il y ait un comité d'éthique qui s'impose à l'ensemble des chaînes, c'est-à-dire une espèce de commission paritaire, un super CSA.
C'est ce que demande la CNJ notamment, une instance nationale paritaire de déontologie indépendante.
Qui ne soit pas que pour l'audiovisuel, enfin moi, dans ma proposition, qui ne soit pas que pour l'audiovisuel, mais également pour Internet et pour la presse écrite, qui soit paritaire comme l'est, par exemple, aujourd'hui la CPPAP, la commission des publications paritaires et des agences de presse, qui est en charge de définir en France qui est un journal, qui est un site Internet d'information, et que parmi les règles, donc par exemple, pour être un journal en France, il y a un certain nombre de règles. Quand il n'y avait pas les gratuits, il fallait avoir un prix qui était inscrit sur la première page du journal, il y a des règles de parution, il y a des règles de quantité de publicité. On pourrait rajouter ça, un certain nombre de règles d'indépendance, de règles d'éthique qui s'imposeraient avec des sanctions concrètes. Voilà, moi, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une partie intéressante.
Et qui nommerait ce super CSA, les membres de ce super CSA?
Dans la commission paritaire, il faudrait des journalistes, les salariés, d'ailleurs, plus largement, devraient nommer des représentants des salariés. Les actionnaires nommeraient des représentants des actionnaires. Vous savez, aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle la commission de la carte de presse aussi, qui est une commission paritaire. On a à la fois des représentants des actionnaires, des représentants des salariés.
Sur cette suggestion, Patrick Bloch, c'est quelque chose que vous avez étudié, que vous avez écarté?
J'ai auditionné le SNJ qui porte effectivement ce projet. On a pris un autre biais.
Pourquoi?
Pourquoi
rejeter cette piste-là?
Parce que je pense qu'en termes d'efficacité, il n'y a pas mieux de jouer pour les médias audiovisuels sur leur autorisation de diffusion. Et je rappelais ce qui vient de se passer pour la chaîne 23, décision historique du CSA, prouvant s'il le fallait son indépendance retrouvée.
Le super CSA qui évoque Julia Cagé aurait pu aussi avoir des pouvoirs de sanction allant jusqu'à la suppression de l'autorisation de diffusion.
Il n'y a pas le super CSA. Il y a un CSA qui est une autorité indépendante, qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui attribue des fréquences.
Si j'ai bien compris, il s'agirait de faire nommer les membres non pas par le pouvoir politique ou les assemblées, mais par les professionnels, les journalistes et les patrons de presse.
Avec des représentants de l'État également.
Avec aussi des représentants de l'État. On a pris une autre
direction visant pour que ce soit toutes ces dispositions soient contraignantes, visant à ce que la convention, c'est là le cœur du dispositif, qui lie le CSA aux chaînes de télévision ou de radio, soit en quelque sorte l'arme de dissuasion. Et plus que de dissuasion, si jamais, évidemment, à la fois l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information, et nous avons ajouté, et des programmes. Parce que ce que vous avez dit, à juste raison, montre que dans le groupe Canal, c'est moins la manière dont est traitée l'information continue sur iTélé qui pose problème que des problèmes de programmation. C'est pour ça qu'on a voulu expliciter les programmes. Et de la même façon, nous avons souhaité que le CSA s'assure que les intérêts économiques des actionnaires, donc de ces chaînes de télévision et de radio, et de leurs annonceurs, ne portent aucune atteinte au principe que nous fixons.
Si je peux me permettre, je vais vous donner un deuxième argument visant à dépasser le CSA. Après Charlie, vous avez un certain nombre de chaînes qui ont été sanctionnées pour avoir mis en danger la vie des otages, pour avoir révélé des informations à des moments où elles n'auraient pas dû les révéler, des informations qui étaient sensibles. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le CSA pour ces condamnations, mais il y a un argument qu'ont eu les chaînes qui était tout à fait pertinent, c'était de dire que les sites internet de tous les médias traditionnels, y compris de ces chaînes d'information d'ailleurs, Le Monde, Libération, Le Figaro, etc., fournissaient au même moment l'information sur internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette séparation entre d'une part l'audiovisuel et d'autre part internet et la presse écrite.
Donc,
si demain, si vous mettez en fond d'écran le site du Monde en enlevant le bandeau Le Monde et le site de France TV Info en enlevant le bandeau France TV Info, il n'y a aucune façon de les distinguer. Donc le CSA est une instance d'un autre siècle qui a vécu, qui a été mise en œuvre à une époque où Internet n'existait pas, où chacun était défini par un support précis, la radio, la télévision, la presse écrite. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde en ligne où en ligne, on ne peut pas distinguer, si vous regardez un site Internet, quel est le support hors ligne, on ne le distingue pas. Donc il faut un super CSA. Pour moi, ça serait une espèce d'émanation à la fois de la CPPAP, qui est en charge de la presse écrite,
de presse, oui,
et d'Internet, et du CSA, qui régulerait l'indépendance. Parce que là, c'est l'autre faiblesse, d'une certaine manière, de votre proposition de loi. Mais encore une fois, je trouve que tout va dans le bon sens, mais que rien ne va assez loin. C'est qu'elle ne régule que l'audiovisuel. Et on l'a vu tout à l'heure avec le cas de... Vous avez évoqué Patrick Drahi, Xavier Niel. C'est-à-dire les industriels qui rachètent à tour de bras des médias, c'est pas que dans l'audiovisuel. Le même problème se pose aussi
pour
j'entends tout ce qu'il dit, mais nous vivons effectivement avec deux modes de régulation qui historiquement sont différents. Et,
évidemment, il n'y avait pas Internet.
Mais oui,
ça a été créé au XXe siècle, par là. On est passé
moi,
au XXIe siècle.
Je veux bien vous me promener à contre-pied de tout ce que j'ai défendu à l'Assemblée nationale depuis des années. C'est-à-dire que j'estime que ce n'est pas la mission du CSA ou même d'un super CSA de réguler l'Internet. Pour moi, je l'ai affirmé à plusieurs reprises et je le réaffirme aujourd'hui, la régulation de l'Internet est comparable à la régulation de la presse écrite. Il n'y a pas d'autorité de régulation, il y a la loi et le juge. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'article 1er vise non pas à cantonner la protection du journaliste au seul journaliste de l'audiovisuel public, comme c'est le cas actuellement dans la loi de 86 à travers son article 44, mais à viser tous les médias, que ce soit évidemment l'audiovisuel, mais aussi la presse écrite et la presse en ligne. Donc on fait un régime unifiant qui modifie, dès l'article 2, la loi fondatrice de 1881, avec notamment une phrase, j'aimerais vous dire, on a plutôt intérêt à construire le plus collectivement possible ce que j'appellerais communément un rapport de force, parce que la phrase « tout journaliste ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle », j'aimerais vous dire que l'intime conviction professionnelle, ça passe mal.
Je l'ai lu, ce paragraphe, il est très intéressant. Ce paragraphe définit l'indépendance des journalistes en disant, très exactement, qu'aucun journaliste ne peut être contraint, on va dire, à écrire au sens large, à écrire quelque chose qui serait contre son intime conviction. Bon, alors, mais le problème
ça
des journalistes...
Ça n'a pas d'un bon sens,
ça. Ça a de l'importance, mais il y a quand même un autre problème. Aujourd'hui, le problème des journalistes, c'est qu'ils ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent écrire. C'est le problème de la censure. Donc ça, c'est la moitié du problème, sauf que l'autre moitié du problème, elle n'est pas couverte dans votre article.
Alors, Jean-Baptiste,
Monsieur Bloch, pardon, enfin, la possibilité de ne pas signer un travail journalistique qui aurait été réécrit dans votre dos, enfin, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, mais je n'aurais jamais signé une enquête qui a été réécrite dans mon dos. On ne signe pas. Ça nous est arrivé un certain nombre de fois de ne pas signer. Donc, je ne sais même pas à quoi ça sert. On ne signe pas quand ça a été réécrit dans notre dos, évidemment.
C'est une disposition qui existe depuis 1983.
Mais vous êtes à côté du problème, Monsieur Bleu. Vous êtes à côté du problème. En quoi votre proposition de loi aurait changé quelque chose dans la censure très grave qui se déroule à Canal+ depuis 8 mois? En quoi ça aurait changé quelque chose?
À travers la deuxième phrase. Là, vous me citez la première
phrase. On laisse Patrick Blanche répondre.
Donc, vous me citez la première phrase qui, heureusement, quelque part, est celle qui pose le moins de problèmes aujourd'hui. On n'est pas dans une dictature. Mais la seconde phrase, c'est « Tout journaliste ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. » Eh bien, j'aime vous dire que cette phrase-là, ça a du mal à passer.
Contraint à accepter la censure, c'est-à-dire qu'à Canal, le journaliste, c'est le diffuseur qui diffuse. Si le journaliste a fini son documentaire, il est bouclé, c'est pas lui qui est en charge de la programmation.
Nous, on a été censurés. On s'est défendu face à la direction de Canal+, d'accord ? On n'a pas été entendu. Ensuite, il y a eu des mensonges proférés en comité d'entreprise pour dire qu'il n'y avait pas eu de censure. Invraisemblable. Bon. À un moment donné, moi, j'ai pris un mandat syndical pour aller défendre la liberté éditoriale de cette émission et de cette chaîne au comité d'entreprise. J'ai informé mes collègues par mail. Bonjour, mes collègues, je prends un mandat syndical pour essayer de défendre la liberté éditoriale de Space Investigation. Qu'a fait la direction nommée par Vincent Bolloré? Il m'a envoyé dans l'après-midi même, 3 heures après ce mail. Je reçois cette lettre m'annonçant que je suis convoqué à un entretien préalable au licenciement. Quelqu'un de votre majorité gouvernementale a-t-il fait quelque chose? Y a-t-il eu une réaction? Pas une seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on nous censure, mais que si on lève le petit doigt, on nous menace de nous licencier et personne ne bouge. Personne n'a bougé chez François Hollande, personne n'a bougé dans la majorité gouvernementale.
Alors, non, mais ça, c'était avant la loi Bloche. Maintenant, question très simple. Dans ce cas précis que j'imagine que vous connaissez bien, que vous avez étudié, qu'est-ce que votre loi aurait concrètement changé?
La loi va avoir des conséquences très directes. Et à mon avis, l'article premier va...
Dans ce cas, on est sous la loi Bloche. Mettons, elle est votée telle quelle, la proposition est adoptée. Qu'est-ce qui change pour Jean-Baptiste Rivoire, concrètement?
À mon avis, la direction, compte tenu de ses dispositions, ne vous envoie pas cette lettre. Si elle vous l'envoie, eh bien, vous gagnez au prud'homme.
Cette lettre est illégale, elle viole la loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de motif pour me licencier, il n'y a pas de motif, d'accord? C'est interdit de faire ça. Ces gens fonctionnent au-dessus des lois, M. Bloch. Vous comprenez le problème? Ils fonctionnent au-dessus des lois. Ils ne respectent pas les lois. Alors comment vous faites?
Il y a les juges. Il y a la justice.
Oui, mais si vous voulez, enfin... moi, je pense que Vincent Bolloré, au-dessus de votre dos, il parle en direct à François Hollande.
Dans le domaine du Code du travail, et avec une justice prud'homale, on est dans ce domaine. Ce que je veux dire simplement, c'est que les dispositions de l'article 1er, qui s'appliquent donc à tous les médias, j'insiste lourdement par rapport à la très bonne observation de Julia Cagé, donc seront inévitablement... là aussi, je pense que la loi, qui a souvent un caractère pédagogique, peut aussi avoir un caractère dissuasif. Si elle n'a pas le caractère dissuasif, ce sera évidemment un soutien très fort pour le journaliste devant les prud'hommes.
Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, parce que dans ce fameux article qu'on cite depuis tout à l'heure, on dit bien que tout journaliste ne peut pas faire des choses contraires à son intime conviction professionnelle, mais il est dit aussi que tout journaliste a le droit de refuser de signer un article dont la forme ou le contenu aurait été modifié à son insu. Comment fait pour appliquer ça, sachant qu'un journaliste en France aujourd'hui, moi j'écris un article, mais parfois Daniel Schneiderman il change le titre et je le vérifie pas avant de le voir en ligne, ça arrive dans toutes les rédactions, c'est le rôle du rédacteur en chef, du secrétaire de rédaction, de parfois modifier des choses à l'insu des journalistes. Il y a aussi une question d'applicabilité à travers ce premier article.
Tout simplement parce que ces dispositions, je vais vous le dire, si nous les avons repris textuellement, c'est parce qu'elles existent dans la loi, qu'elles s'appliquent seulement aux journalistes de l'audiovisuel public aujourd'hui, pour des raisons historiques, et le fait qu'elles aient émergé en 1983, évidemment, illustre ce qui était fait à l'époque, et nous avons remarqué d'ailleurs que l'aspect dissuasif de ces dispositions a amené à ce qu'il n'y ait aucun contentieux. Voilà. Mais j'aime mieux vous dire que l'intime conviction professionnelle, là, c'est un vrai sujet de discussion par rapport à des éditeurs, à des directeurs de publication qui me disent, et ma responsabilité éditoriale, quand il y a un problème, c'est moi qui vais devant le tribunal. Donc alors, c'est là où, visiblement, ça chatouille.
Alors, reste pour donner un peu de champ au débat, qu'il y a une disposition, en tout cas, tout un champ de réflexion qui a totalement disparu de votre loi, c'est la lutte contre la concentration des médias. Alors, vieille constance, effectivement, des tentatives de régulation des médias, et ça fait 30 ans que ça dure, Justine.
Oui, en 1983, déjà, Pierre Mauroy, qui était alors Premier ministre de François Mitterrand, défendait une loi pour les médias, mais surtout une loi anti-concentration. On l'appelait à l'époque, non pas une loi anti-Bolloré, mais une loi anti-Hersant, du nom du groupe de presse qui, à l'époque, contrôlait 30% du tirage des quotidiens de Paris, dont Le Figaro. Il y a un documentaire, le documentaire de Gilles Balbastre et Yannick Carguat, Les Nouveaux Chien de garde, qui en 2012 rappelait cet épisode.
Nous pensons qu'il convient dans une démocratie comme la nôtre d'établir un certain nombre de règles et qu'il faut à nouveau poser des principes auxquels des démocrates devraient souscrire sans hésitation. Réaffirmer la nécessité du pluralisme dans la presse.
En ce mois de novembre 1983, le Premier ministre Pierre Mauroy, à la tribune de l'Assemblée nationale, défend un projet de loi pour la liberté de la presse. Le candidat François Mitterrand l'avait promis. La gauche au pouvoir a l'ambition de donner aux médias français leur indépendance et de garantir leur pluralisme.
De ses organes dirigeants, limiter pour se faire la concentration et se donner les moyens de contrôler efficacement ses dispositions.
L'ennemi est alors désigné, la concentration et les puissances d'argent.
Nous n'avons pas peur de la puissance de la presse, mais nous ne tolérerons pas la puissance de l'argent, M. Godin.
Le 13 mai 2009, le journaliste Jean-Pierre Elkabbach, la voix du groupe Lagardère, reçoit la Légion d'honneur des mains de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Parmi les invités venus le féliciter, le gratin des médias et du monde des affaires, ainsi que des responsables politiques de premier plan, de droite, mais aussi de gauche. Entre ces deux dates, pour la gauche de gouvernement, 30 ans de renoncement. 30 ans de renoncement à légiférer pour des médias plus indépendants. 30 ans d'augmentation des seuils de concentration. 30 ans de soutien à l'appropriation par de grands groupes industriels et financiers d'une bonne partie de la presse écrite, des radios et des télévisions. 30 ans de renoncement à un service public de l'information indépendant et de qualité. 30 ans de renoncement à se saisir du problème des médias et à en faire une question politique essentielle. Alors, faudra-t-il encore attendre 30 années supplémentaires pour faire de l'appropriation réellement démocratique des médias une étape indispensable de la transformation économique et sociale?
Et sur cette question, alors, non seulement de la concentration, mais de la propriété des médias, vous la considérez comme un combat définitivement perdu et qui n'est pas nécessaire de réactiver?
J'ai vécu, alors, de plus ou moins près ou de plus ou moins loin, évidemment, les débats qui ont, et les démarches législatives, hein, qui ont visé à lutter contre la concentration des médias, avec des dispositions d'ailleurs qui existent actuellement, notamment pour l'audiovisuel, et qui continueront à exister. Cette proposition de loi ne les modifie pas.
Et la situation est acceptable aujourd'hui? Non, elle est satisfaisante?
Comment vous dire les choses? Évidemment, dans les années 80, il y avait la figure tutélaire de Robert Hersant et son hégémonisme dans la presse écrite. De la même façon, dans les années 90, et c'était assez obsessionnel pour la gauche, il y avait l'hégémonisme de TF1 dans l'audiovisuel. À vrai dire, aujourd'hui, le paysage des médias est de nature différente. On voit se constituer en France des grands groupes multimédias. On cite Bolloré, on peut citer Drahi, Lagardère est toujours, et puis d'autres encore.
Mais il n'y a plus d'hégémonie, c'est ça, si je vous souviens.
Il n'y a plus d'hégémonie, non, bien sûr, parce que Internet.
Et donc c'est mieux.
Si vous voulez, si on veut aller vers plus de pluralisme, le fait qu'il n'y ait plus d'hégémonie est déjà, de mon point de vue, un mieux. Bon. Avec, j'en termine rapidement, des grands groupes multimédias dont on voit qu'ils sont présents pour beaucoup d'entre eux, et dans la presse écrite, et dans les médias, radio, télé, et même certains comme Drahi possèdent et sont dans les télécoms. Donc on est face à ce paysage extrêmement mouvant, avec en plus ce paradoxe qui est une vraie difficulté, qui interpelle en responsabilité le législateur que je suis, c'est qu'en plus, ces médias, et je pense notamment à la presse écrite, ont besoin d'investisseurs privés pour que des titres subsistent. Et parce que j'avais été très frappé, voire marqué par l'incapacité qui était la nôtre, quand Bernard Arnault a vendu la Tribune pour pouvoir acheter les Échos, et que finalement, on a vu in fine la disparition du deuxième quotidien économique dans notre pays, qui assurait au moins un minimum de pluralisme, ouais, dans l'information.
Bah alors, donc, même s'il n'y a plus d'hégémonie, on n'est quand même pas dans une situation parfaite, on est bien d'accord.
Bien sûr.
Ah, voilà. Mais alors,
je n'en dis qu'on vient pas.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que, alors, de ce fait,
et compte. Le diagnostic, moi, je voudrais juste revenir sur la question de l'hégémonie et sur le diagnostic, parce que je pense que c'est une erreur fondamentale de penser qu'avec Internet, on a résolu le problème de la concentration. Si je regarde sur Internet les audiences des sites Internet, des principaux journaux, faisons un calcul très simple. Vous prenez les 5 principaux journaux français, vous prenez leur diffusion cumulée, vous regardez la part que ça représente par rapport à la diffusion totale de la presse écrite.
Cumulée, c'est-à-dire print et en ligne.
Oui, non, mais cumulée entre les 5. Donc la circulation de West France, plus du Monde, d'accord, plus Figaro. Vous faites la même chose pour les 5 principaux sites Internet des journaux. En fait, l'audience est beaucoup plus concentrée en ligne que sur papier. C'est-à-dire qu'en fait, on a une idée.
Quels sont les cinq principaux sites de presse en ligne
d'information, ouais. Vous avez Le Monde et Le Figaro qui se partagent à intervalles réguliers la première place. Ensuite, entre la troisième et la cinquième place, ça varie régulièrement. Il y a toujours France TV Info qui est dans le top 5. Et ensuite, le 4, 5, ça varie régulièrement.
Alors, et donc, ce que vous dites, c'est que la concentration est pire là que dans l'imprimé.
Elle est bien plus élevée. En fait, Internet, c'est une illusion de ce point de vue-là, parce que le coût d'entrée est quasiment nul. C'est relativement simple de créer un site d'information. C'est pas exactement, c'est pas exactement nul, mais il y a quand même deux coûts que vous avez pu assumer, qui sont la distribution, même si en France on a la péréquation, la loi Bichet, et l'impression, ça réduit quand même plus ou moins les coûts, on va dire entre un tiers et la moitié. Et donc on a cette impression qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus d'entrants, mais en fait l'audience est surconcentrée, donc il y a un problème de concentration qui est encore plus fort. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait les calculs, et c'est pour ça qu'une loi est nécessaire, encore une fois, la dernière fois qu'on a régulé, c'était en 86, mais c'était la suite de la loi de 83, c'est ce processus qui a commencé en 83, c'était avant Internet. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre l'audience totale sur les différents supports, la presse écrite, Internet, alors, la télé et la radio, pour calculer d'accord. les seuils. Et c'est même, écoutez, même en Italie...
Non, mais attendez, avant de parler de l'Italie, je veux dire, sur cette situation de concentration que souligne Julia Cagé, vous dites quoi? J'ai pas bien compris ce que vous disiez. Vous dites, c'est pas parfait, c'est vrai que ça pose un problème, mais aujourd'hui, on peut pas et c'est pas la peine de partir dans un combat perdu d'avance. Ou vous dites, non, finalement, ça va bien. Je comprends pas bien le...
Je ne dis pas on ne peut pas, puisqu'il y a justement cette proposition. Je conteste absolument pas l'analyse de Julia Cagé, qui en plus a des compétences reconnues sur les phénomènes de concentration. Évidemment, je ne vais pas les contester. Je viens moi-même de citer Drahi, Bolloré et quelques autres.
Mais il ne figure pas dans votre proposition.
Oui, parce que, alors là, j'en assume totalement la responsabilité, par souci d'efficacité, et l'objectif étant de renforcer l'indépendance, l'honnêteté, le pluralisme de l'information et des programmes, je n'ai pas fait le choix de passer par le biais économique et par la mise en place de nouveaux dispositifs anti-concentration, mais pas d'autres, par d'autres moyens.
Il faudrait une loi.
Écoutez, je me poserai éventuellement...
Le Parti Socialiste en 2011, de revoir les seuils de concentration. C'était écrit noir sur blanc, il y avait un chapitre média dans le programme du Parti Socialiste en 2011. Il fallait revoir les seuils de concentration et ça n'a pas été fait. Il fallait également d'ailleurs empêcher des industriels sous contrat avec l'État de posséder des médias. C'était aussi dans le programme du Parti Socialiste en 2011. Et j'imagine que vous étiez en plus en charge, au moins en partie, de l'écriture du chapitre sur les médias.
J'étais à l'époque secrétaire national du PES aux médias. Donc effectivement, c'est moi qui ai rédigé ces choses. Je connais par cœur.
Alors pourquoi on
l'a
pas fait?
Non.
Très simplement, Patrick Bloch, c'était dans le programme. Pourquoi on l'a pas fait?
Ce dispositif que nous avions proposé visait et offrait un certain nombre de perspectives. Je rappelle au passage d'ailleurs que sur le mode de domination des sociétés de l'audiovisuel public, j'avais porté une autre perspective que le retour à la situation hantée, c'est-à-dire au pouvoir de nomination du CSA, mais je laisse ça de côté.
Pourquoi on l'a pas fait? C'était dans le programme, pourquoi on l'a pas fait? Très simplement.
Parce qu'un autre choix a été fait.
C'est quand même un candidat qui a été élu sur un programme.
Oui.
Pourquoi il y a eu autant de
François Hollande a été élu sur ses 60 engagements. 60 engagements dans lesquels il y avait l'indépendance des médias. Petit 1. Moi, en tant que secrétaire national du PS aux médias, sous l'autorité de Martine Aubry à l'époque, j'ai effectivement rédigé le programme média du PS, c'était en 2011. Vous avez raison de le rappeler. Sur le pouvoir de nomination qu'on voulait retirer au président de la République, moi, je préférais un modèle, disons, BBC, avec des conseils d'administration stratèges, forts, qui choisissent leur président pour exécuter leurs décisions. Ça n'a pas été arbitré parce que François Hollande, président de la République, a fait un autre choix, que je respecte.
Est-ce que c'était plus dur à tenir que les 60 autres propositions? Est-ce qu'il y a des blocages particuliers?
Mais parce qu'il y a eu des opinions diverses qui se sont exprimées, dont la mienne, et à un moment donné, il y a eu un arbitrage.
Ça n'empêche pas une loi de passer, en principe. Une opinion, ça n'empêche pas une loi de passer, en principe.
Non, mais il y a un arbitrage qui a été rendu, qui fait que le projet de loi que nous avons examiné et voté a fait le choix de redonner le pouvoir de nomination au CSA.
Vous regrettez que ce point précis des engagements de 2011 n'ait pas été tenu?
À l'époque, j'avais argumenté...
Aujourd'hui, en 2016, vous regrettez ou pas?
Je pense qu'on aurait pu effectivement s'inscrire dans une plus grande modernité. En plus, je pense que ça aurait facilité la vie du CSA, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, contrairement peut-être à l'image qu'on a, les pouvoirs du CSA, qui sont pour moi indispensables, ne s'exercent pas dans un pouvoir de nomination tous les 5 ans, mais plutôt dans la quotidienneté des missions que lui confie le législateur. Alors, pour revenir, on avait traité effectivement du problème de la concentration, mais uniquement dans l'audiovisuel, pour substituer au seuil de concentration, au fait de posséder un nombre limité de chaînes en clair, etc. On avait voulu là un système à l'allemande. Je suis désolé d'avoir trouvé des inspirations outre-Manche pour le pouvoir de nomination et outre-Rhin pour seuil anti-concentration, c'est-à-dire d'avoir le modèle allemand qui amène un observatoire indépendant à calculer les seuils d'audience et à partir et donc tout groupe ne pouvait aller au-delà d'un seuil de 37% d'audience.
C'était le programme de 2011, ça.
Oui,
c'était
absolument.
Ça. Alors le modèle allemand. Je parle de spécialiste des modèles internationaux de...
Non, mais ce qui est intéressant dans le modèle allemand, c'est pour ça que j'évoquais aussi le modèle italien, c'est que ça a été revu récemment, et qu'en Italie, la dernière fois qu'on a revu les seuils de concentration pour l'audiovisuel, c'était en 2011. Et en France, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était en 86. Puisqu'on parle de ça, j'en profite pour vous poser une question rapide. En tant que régulateur, on a une règle en France, quand même, on n'a pas abandonné toute volonté de réguler la concentration, qui s'appelle le 2 sur 3. Qui fait qu'un même actionnaire ne peut pas être actionnaire majoritaire de plus de deux des trois supports. C'est toujours ces vieilles règles, vous savez, donc il n'y a pas Internet, il n'y a que trois supports, mais bon, on va commencer par là, la radio, la télévision et la presse écrite. Patrick Drahi, qui est monté à 49% du capital de Next Radio TV, nous annonce qu'il va devenir l'actionnaire majoritaire dans les prochains mois. Donc, si je compte bien, Libération, L'Express, BFM, RMC, ça fait 3 sur 3. D'une certaine manière, comment se fait-il en France qu'on puisse annoncer ça, alors que c'est même contre l'esprit de la loi, sans craindre l'intervention du régulateur ou de l'autorité de la concurrence. Est-ce que ça veut dire que même sur ces seuils-là qui existent de fait, on va faire comme aux États-Unis, ou de facto aux États-Unis c'est encore plus strict, mais en fait on s'est assis dessus à chaque
question,
fois, et que l'existant ne respecte pas le texte de la loi.
– Question précise, réponse précise de Bloch sur Drahi, qui a annoncé qu'il allait entrer dans l'illégalité, si je comprends bien.
S'il rentre dans l'illégalité, il se retrouvera confronté à de vraies difficultés.
Il n'y a plus de réaction de Fleur Pellerin quand il a annoncé ça. Enfin, c'est annoncé, c'est écrit, un contrat qui a été signé, il est à 49%, il va monter majoritaire au capital.
J'ai trop d'amitié et de reconnaissance pour Fleur Pellerin pour revenir sur des interventions ou des propos publics qu'elle a tenus. Moi, je ne suis pas régulateur, d'ailleurs, je suis législateur.
Alors, Jean-Baptiste Rivoire.
Pardon, enfin, moi, ça a du sens, les événements ont du sens pour moi. C'est-à-dire que ces grands patrons de médias sont de plus en plus puissants, on est de plus en plus dans la concentration. Et votre majorité gouvernementale, au fond, les laisse faire depuis des années. Mais ce n'est pas tout à fait pour rien. Parce que moi, ce que je finis par me dire, en fin de compte, par rapport à cette liberté de l'information qui est vitale en démocratie, c'est que non seulement ces grands patrons de médias s'assoient dessus, mais je me demande même, mais que font les politiques? Parce que c'est ça qui est important. Nous, on a tiré le signal d'alarme depuis un certain nombre de mois. Or, c'est quand même frappant de voir que dans la liste des sujets qui ont été bloqués là, par la direction de Vincent Bolloré, 4 fois, il protège François Hollande. 4 fois.
Ah bon?
Ah ben oui.
Alors,
Répression Made in France. C'est une enquête sur la façon dont la France exporte ses moyens de répression vers des dictatures. Vous croyez que ça va faire plaisir à François Hollande? Non, mais d'accord, c'est bloqué aujourd'hui. Les placards dorés de la République. François Hollande nous a annoncé une République exemplaire sur un plan moral. Il y a des pratiques contestables. Ça ne va pas lui faire plaisir. François Hollande qui fait la guerre, qui n'a pas forcément l'argent pour la faire. Les dysfonctionnements des services de renseignement sur les attentats. Vous croyez que ça va faire plaisir à François Hollande? C'est 4 fois, Vincent Bolloré protège François Hollande. Et d'un autre côté, François Hollande, quand Vincent Bolloré torpille l'information à Canal, qu'est-ce qu'il fait François Hollande? Rien. Il lève pas le petit doigt. Eh bien, vous savez ce que j'en pense, moi, au bout d'un moment? Ils ont un intérêt conjoint à étouffer l'investigation. C'est leur intérêt mutuel. C'est pour ça que vous êtes de bonne volonté et je vous remercie pour votre proposition de loi. Mais au-dessus de vous, il y a des gens qui n'ont pas forcément
Je pourrais me contenter de votre interpellation et avoir une satisfaction personnelle, ce qui, pour moi, n'a aucun intérêt, parce que je suis un législateur et je répète avec insistance, et vous imaginez que sur un sujet aussi sensible, cette proposition de loi a été rédigée, déposée, c'est celle du groupe socialiste, et pas seulement la mienne. Si elle a été inscrite en procédure accélérée à l'ordre du jour de l'Assemblée le 8 mars, c'est qu'il y a, et que le Premier ministre y a fait référence dans ses voeux à la presse, c'est qu'il y a une volonté politique qui fait que je ne vais pas revenir sur vos commentaires, mais dire je ne suis pas un député socialiste seul dans son coin, même président de commission, qui agit au nom de l'intérêt général. J'ai évidemment un soutien politique affirmé publiquement.
Un certain nombre ne va pas croire à cette volonté politique.
Eh bien, j'espère qu'une fois la loi votée et appliquée, j'arriverai à vous convaincre.
Et on ne peut pas aller tellement plus loin aujourd'hui. Alors, Julia Cagé doit nous quitter. Je voudrais quand même, mais vous allez pouvoir partir, je voudrais qu'avant de terminer cette émission, on se rende compte que c'est un problème qui ne se pose pas évidemment seulement en France, mais aussi dans un grand pays qui s'appelle les États-Unis.
Oui, et aux États-Unis, il y a un homme politique qui pourfend depuis de nombreuses années les empires médiatiques. Son nom, c'est Bernie Sanders, on l'a redécouvert à l'occasion des primaires, puisqu'il met en difficulté Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate. On l'écoute en 2012, il était interrogé par un ancien porte-parole de la Maison-Blanche, Bill Moyers.
I can tell you that when I was mayor of that same city, Burlington, Vermont, and we used to hold press conferences, you would have four or five or six different radio stations showing up. You know, we'd be talking about the school board or the city council, local issues. Now, if we're lucky, we'll have one radio station showing up. And that's true all over the United States of America.
Would that be your response to the argument that the other side makes, that the FCC is strangling with slow regulations America's competitiveness in the world, and that if we continue to tighten these regulations, they will not be able to find their place in the world market.
Bill, do you know where I heard that exact same explanation, that defense? I heard it when Wall Street wanted deregulation. That's exact. We have to be competitive in the entire global economy. Let's deregulate Wall Street so we can compete internationally. I don't believe that for a second. Look, the issue is we live in a country where millions of people really have not had the opportunity to learn about the dynamics of what goes on in American society. Major, major issues are literally get very, very little discussion. So the bottom line for the FCC has got to be, how do we create a situation in which the American people are hearing a diverse range of ideas so that our public world has the kind of debate that it needs?
S'il est élu, vous vous exilez aux États-Unis pour aller fonder une émission d'investigation américaine ?
Peut-être. Enfin, j'irai là où on peut travailler. J'espère qu'on pourra encore travailler en France dans quelques temps.
Je vais essayer de tout faire pour ça.
Une réaction ?
Ah ben, j'écoute avec un immense intérêt, voilà, parce que c'est ça aussi les États-Unis, quoi. C'est le paradoxe américain un peu.
Très bien, merci à tous les... Oui, vous voulez dire... Voilà. Merci d'avoir participé à cette émission. Évidemment, vous doutez bien qu'on observera les suites de l'avenir de votre proposition de loi avec un très vif intérêt. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.